Bonjour à toutes et à tous, au micro Gabriel Shapiro, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'être en ligne avec Claude Klein, professeur à la faculté de droit de Tel Aviv, spécialiste reconnu de l'histoire du sionisme, qui a publié de nombreux ouvrages consacrés à la théorie du droit et à l'histoire d'Israël. Et en particulier, moi j'ai retenu avec beaucoup de plaisir un livre qu'il a écrit « Peut-on cesser d'être juif ?». Bonjour Monsieur Claude Klein.
Bonjour, bonjour, mais je suis à Jérusalem.
Très bien. Alors, je voulais parler, bien sûr, avec vous, qui êtes juriste, d'une nouvelle tempête politique qui anime les partis et la société israélienne. Je veux parler de la loi de régulation qui, pour moi, peut devenir une loi de régularisation des avant-postes de Cisjordanie, peut-être étape primaire d'une annexion rampante de la Cisjordanie. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, évidemment, il y a une prise de position politique à ce sujet. Je suis personnellement hostile à cette loi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si le sujet n'était pas aussi grave, je dirais que c'est une véritable comédie, car voici une loi dont en réalité le Premier ministre ne veut pas. Une grande partie d'ailleurs de sa propre majorité n'en veut pas. Mais elle est entraînée par sa droite, donc M. Bennett et le parti Abayit Yehudi, qui l'oblige pratiquement à voter une loi dont très probablement sera annulée par la Cour suprême après un contrôle d'inconstitutionnalité, si toutefois la loi est adoptée.
Mais cependant, quand j'entends que M. Netanyahou s'oppose à ce projet de loi, n'est-il pas au fond en accord sous-jacent avec M. Bennett pour que chacun se répartisse des rôles différents ?
Oui, oui, bien sûr. Et puis M. Netanyahou n'est pas hostile à la régulation et à la régularisation, mais il sait tout simplement que politiquement, c'est absolument impossible. Je veux dire, d'abord sur le plan international, il peut même y avoir, et M. Netanyahou en a parlé à plusieurs reprises, des répercussions sur le plan pénal international, puisque les auteurs d'une telle loi pourraient être déférés devant la Cour pénale internationale. Mais vous avez raison, il y a une répartition des rôles entre M. Bennett et M. Netanyahou, encore que ce ne soient pas des amis très proches, mais il y a la droite et il y a la droite des partis religieux, et chacun essaie évidemment de montrer à son électorat qu'il fait ce qu'il peut pour défendre ses intérêts.
Alors, Isaac Herzog, le leader de l'opposition travailliste, a même parlé au sujet de ce projet de loi d'un suicide national pouvant conduire à un État binational. Doit-on être aussi pessimiste ?
Oui, on a bien des raisons d'être pessimiste. Si vous voulez, vous avez bien fait en commençant cette interview par dire que il y avait une très vague odeur, si je puis dire, d'annexion derrière cette loi. Et puisque l'on dit que désormais la loi israélienne, une certaine loi israélienne s'applique dans les territoires, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, que les autorités israéliennes peuvent exproprier, même si ce n'est pas pour des buts d'utilité publique. Et c'est donc une loi d'annexion. Or, une loi d'annexion, cela signifie quoi ? Cela signifie que la théorie des deux États n'existe plus et que entre le Jourdain et la Méditerranée, il n'y aurait plus qu'un seul État, donc un État binational où les Juifs seraient très rapidement minoritaires.
Apparemment, ces colonies se seraient construites, mais je voudrais avoir votre écho, sur des propriétés privées palestiniennes. Peut-on vraiment parler de propriétés privées ?
Oui, pourquoi posez-vous la question ? Pourquoi les Palestiniens n'auraient-ils pas de propriété privée ? Effectivement, en tout cas, si vous voulez, l'histoire a commencé de la manière suivante, puisque maintenant cela fait presque 50 ans que ces territoires sont occupés, qu'Israël a commencé une colonisation au début relativement faible, et au début, la justification de la colonisation, c'était que l'on crée des colonies pour assurer la sécurité d'Israël. Et c'est ce que la Cour suprême avait accepté, d'ailleurs, avec cette chose assez extraordinaire qui n'a jamais existé nulle part au monde, que les autorités judiciaires de l'État occupant, donc d'Israël, acceptent de contrôler ce qui se passe dans les territoires. On n'a jamais vu cela nulle part. Alors, on a continué comme ça, et M. Begin était très fier, lorsqu'il était Premier ministre, de dire « Ah ben, nous construisons des colonies, mais nous n'allons pas le faire sur des propriétés privées. » Alors, finalement, cela s'est fait malgré tout, de façon un peu spontanée, de façon irrégulière, l'État fermant un œil, et puis soudain, tout le monde se réveille, la Cour suprême est intervenue dans cette affaire d'Amona, mais l'affaire d'Amona, ce n'est qu'une toute, toute petite goutte, puisque, comme l'a rappelé M. Lieberman hier, il y a au moins 250 ou 300 avant-postes de ce type, et donc toute la colonisation pourrait être remise en question, sans parler des remous politiques que l'on attend déjà la semaine prochaine, puisque la colonie d'Amona, elle sera véritablement évacuée.
Alors, sans prendre bien sûr leur défense, je voudrais pouvoir dialoguer avec vous. Je lisais dans la presse que les occupants prennent parti du fait qu'ils disent « nous ne savions pas que ces propriétés étaient privées et de ce fait, nous sommes prêts, selon la loi israélienne, à ce qu'il y ait un dédommagement ». Mais n'est-ce pas cela un vol en bande organisé ?
Tout à fait. D'abord, je ne peux pas dire si les gens qui habitent là-bas savaient ou ne savaient pas. Et d'ailleurs, je voudrais dire très sincèrement, je suis hostile à la colonie, à cette type de colonisation, mais la situation de ces gens est vraiment dramatique, puisque certains habitent là-bas dans des maisons depuis une vingtaine d'années, et certains même en toute bonne foi. Mais malheureusement, cela ne change rien à la situation, même s'ils ne savaient pas. On ne peut pas obliger le propriétaire, les propriétaires donc palestiniens, d'accepter cette expropriation. C'est une situation qui, sur le plan personnel, je le répète, pour les colons, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, est certainement absolument dramatique.
Alors, ne peut-on pas cependant être optimiste, puisque le procureur israélien, le procureur général israélien, a fait part qu'il estimait que c'était un acte inconstitutionnel par rapport aux lois israéliennes?
Ah oui, c'est même tellement inconstitutionnel que si la loi est adoptée, elle sera attaquée devant la Cour suprême. Or, normalement, lorsque une loi est attaquée, c'est le représentant de l'État qui défend. Or, M. Mandelblit, le procureur général, a annoncé déjà qu'il ne défendrait pas la loi en son âme et conscience, et le gouvernement va être obligé de prendre un avocat particulier, un avocat privé en dehors du service public. Cela montre bien à quel point cette affaire est délicate et, si je puis dire, branlante.
Et comment voyez-vous, alors, d'un point de vue plus général, l'évolution de la vie politique israélienne vis-à-vis des territoires occupés ?
Écoutez, il y a à l'heure actuelle une pression extrêmement forte qui est aussi une pression politique, puisque le parti Abayit Hayoudi de M. Bennett est l'allié inconditionnel et l'allié en tout cas nécessaire pour M. Netanyahou. Or, je vais vous révéler un petit secret que tout le monde connaît ici. Il y a un chiffre absolument mystérieux et dans la vie politique israélienne, c'est le chiffre de 61. 61, c'est la majorité qu'il vous faut à la Chambre. Et donc, tous les jours, on compte, est-ce que j'ai 61? Monsieur Begin, le fils de Menachem Begin, par exemple, a voté contre la loi. Est-ce que là, je ne perds pas? Et donc, tant que j'ai 61, ça va bien. Si Monsieur Bennett s'en va, eh bien, il n'y a plus les 61 et le gouvernement va tomber. Et Monsieur Netanyahou est très préoccupé, avant tout et d'abord, c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche beaucoup ici, par sa survie politique.
Mais cependant, donc, M. Netanyahou apparaît comme l'élément, je mets les guillemets, modéré de l'aile droite du parti Likoud.
Oui, dans cette affaire, on peut le dire. Il est effectivement plus modéré que la plupart des membres, du groupe parlementaire, mais il a peine à le montrer. Il ne peut pas véritablement l'affirmer. Là encore, il a peur de ne pas être suivi.
Et vous verrez que, est-ce que vous voyez que dans un avenir proche, il y aurait peut-être de nouvelles élections du fait de ces atermoiements où M. Netanyahou va poursuivre sa vie politique en faisant les concessions nécessaires à l'extrême droite?
Ce qu'on ne sait peut-être pas assez en France, c'est que M. Netanyahou traîne un certain nombre de casseroles. de casseroles qui pourraient, je mets entre guillemets parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive, qui pourraient déboucher sur des actions judiciaires. Il y en a au moins trois ou quatre, et cela pourrait sérieusement le mettre en danger. C'est pourquoi je peux dire en tout cas que nous allons vers une période de turbulence politique de plus en plus prononcée.
Merci beaucoup. Merci, Claude Klein, pour cette interview et pour votre intervention. Ainsi se termine l'émission Chronique pour la paix. Je voudrais rappeler que le mardi 13 décembre à 20h30, au Cercle Bernard Lazare, 10 rue Saint-Claude, Paris 3e, un éminent spécialiste géopolitique français, Jean-Pierre Filiu, parlera d'une problématique tout à fait d'actualité, la Syrie entre Poutine et Trump, et je vous engage à venir nombreux l'écouter, vu sa réputation et son expertise. Je vous remercie encore, Monsieur Claude Klein, et avec vous, Gabriel Shapiro, vous souhaite Shabbat Shalom à toutes et à tous, et à dans 15 jours.